de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierre et de Notes. Je suis en compagnie d'Yves. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Aujourd'hui, nous allons traiter de la toccata qui signifie toccare, toucher. Donc effectivement, il y a une sorte de virtuosité à l'intérieur des œuvres de toccata. Comment vous voyez la forme toccata, Yves ?
La toccata, c'est un monde. Effectivement, toucher en italien, toucher le clavier, Bach, s'est approprié ce terme-là. Il en a écrit 14 au total, et c'est pas le hasard parce que 14 c'est le chiffre de Bach. Il en a écrit 5 pour l'orgue, 7 pour le clavecin et 2 pour le clavier, la do mineur et la mi mineur. Et donc nous allons commencer par celle de l'orgue, bien entendu. Alors le prototype de ces toccatas, peut-être la plus complète parce que ça n'est pas une toccata et fugue, c'est toccata adagio et fugue, c'est un triptyque. C'est la BWV 564 en do majeur. La toccata est une pièce de virtuosité extraordinaire qui déploie toute la technique de l'orgue, y compris les solos de pédales virtuoses. La fugue est un développement en guirlande sur un thème ascendant, pam, palalam, pam, 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 tout à fait joyeux et tout à fait extraordinaire. Et l'adagio, en la mineur, au milieu, est d'une profondeur méditative assez bouleversante et rappelle à ce titre les toccata per l'elevazione de Frescobaldi que Bach a passé sa vie à recopier. Donc ça, c'est la toccata en do majeur. Et puis, il y a les quatre autres, puisque Bach a écrit ses cinq toccata sur cinq notes, do, ré, mi, fa. Deux toccata en ré mineur, la grande ré mineur, bien sûr, que tout le monde connaît, donc sur laquelle on va revenir, j'imagine, mais aussi la ré mineur dite dorienne, alors qu'il n'a rien de dorien, c'est simplement qu'il n'y a pas de bémol à la clé, mais qui aurait été à la deuxième toccata pour orgue en ré mineur, qui est un carillon tout à fait extraordinaire, fabuleux, monothématique. La toccata en mi majeur, qu'il avait d'abord écrite en do majeur et qui ensuite il l'a transcrite en mi justement pour faire do, ré, mi, fa. Et la toccata en fa majeur, alors qu'est une démonstration de virtuosité sur l'orgue de Weimar parce qu'il y avait un pédalier qui montait précisément jusqu'au fa. 30 notes, et qui lui permet vraiment de montrer ce que c'est qu'un canon et un solo de pédale en vraie grandeur. J'imagine qu'on va parler de la grande toccata, la fameuse grande toccata que tout le monde connaît. Ce qu'on ne voit pas généralement par une vision superficielle, et nous sommes là pour parler de ce qu'on ne voit pas, c'est que cette toccata a une fonction liturgique tout à fait étonnante, comme toutes les toccatas d'ailleurs. Mais celle-là est particulière car elle est associée à la Pentecôte. Alors la Pentecôte, une joie immense puisque c'est l'Esprit qui vient et qui habite nos cœurs, naturellement. L'allusion, le grand mordant qu'on entend au début, le plus mordant peut-être le plus célèbre de l'histoire de la musique, tidadam, ce mordant-là sur le grand plénum de l'orgue, en réalité, il fait allusion aux 12 réunis Pentecosta, 50 jours après Pâques, et qui reçoivent l'Esprit. L'Évangile, les Actes des Apôtres le décrivent comme une secousse, un événement qui, quelque part, secoue nos cœurs. Et c'est ce mordant-là qui vient entrer dans nos cœurs et nous mettre en route. Donc ça, c'est la toccata. Et puis la fugue, que nous connaissons bien aussi, qui est absolument magnifique. Ti-da-di-da-di-da-di-da. Eh bien, ce sont des coups d'archet de violon. Bach se souvient qu'il a été altiste avant d'être organiste. Et donc, c'est une œuvre de violon, une guirlande de violon tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, soit dit au passage, Disney s'en est souvenu, puisque dans Fantasia, quand on évoque cette fugue, on voit des archets de violon un petit peu stylisés à l'écran. Donc, c'est tout à fait bien vu.
À quel moment peut-on jouer une toccata en plein milieu d'une messe ou à la sortie, par exemple ?
Alors, bien sûr, on ne va pas jouer la grande toccata au moment de la communion, naturellement, mais il y a des toccatas méditatives, je pense aux toccatas italiennes, par exemple, qui sont les toccatas per l'elevazione, et même les toccatas avanti la messa, qui est une méditation pour entrer dans la messe. Oui, on peut les jouer à tous les moments. Dès qu'il y a de la méditation, mais il faut évidemment choisir des moments et des toccatas qui sont en accord avec la liturgie.
Il y a des toccatas moins démonstratives les unes
oui.
que les autres.
Alors, il y a des toccatas plus intérieures. Et à ce titre, on peut dire que, effectivement, par exemple, la mi mineur, c'est David Frey qui l'a décrit très bien. pourrait être vu comme un prélude d'une passion où on voit carrément le drame de la passion, mais aussi de la résurrection, car je rappelle que les deux événements sont indissociables. Tout ça, c'est la passion, la résurrection, c'est la même histoire, la même merveille. Il y a derrière tout ça une aventure spirituelle extraordinaire dans la toccata en mi mineur. Et puis alors, les sept pour clavecin sont tout à fait étonnantes parce qu'il explore les possibilités digitales du clavier pour une méditation intérieure. Je peux donner l'exemple de la ré mineur. Elle est calme, mais elle est d'une profondeur et d'une intériorité tout à fait remarquable.
Écoutez une toccata, la toccata de Vidor, qui est assez célèbre, ou une autre toccata de Johann Sebastian Bach,
alors,
par exemple.
Alors effectivement, après la toccata en ré mineur jouée par Sviatoslav Richter, effectivement, la toccata de Vidor au ton relatif majeur, puisque le fa majeur c'est le relatif du ré mineur, je souhaite la faire entendre pour une raison très simple. D'abord parce que c'est toujours une joie immense de la jouer. Moi, j'ai toujours un bonheur incroyable à la jouer. Vous savez pourquoi ? Parce que Vidor a intégré dans cette toccata la technique d'un instrument extraordinaire qui s'appelle le piano. Et donc, par les arpèges, par les guirlandes, par ce carillon, c'est un carillon de joie en fin de compte, eh bien, c'est Liszt, en fin de compte, c'est Liszt qui joue cette toccata de Vidor. D'ailleurs, ça me permet de citer une anecdote personnelle, c'est que Dupré mentionnait toujours son maître Vidor, qui racontait, ah, vous voyez, il y a une filiation, moi je parle de Dupré, Dupré parle de son maître qui était Vidor, et Vidor qui parle de la joie qu'il avait eue à entendre Franz Liszt jouer sur l'orgue du Trocadéro, et qu'il se souvient des mains de Liszt, ça devait être quelque chose, les mains de Liszt qui se déployaient comme des éventails sur l'orgue du Trocadéro. Eh bien, la toccata de Vidor, c'est cette joie-là.
Il faut quand même avoir une dose de virtuosité en tant qu'interprète pour interpréter au moins ces œuvres qui sont compliquées quand même pour jouer.
Il faut faire du piano, il faut faire du clavier, tout à fait, il faut avoir les doigts. Mais vous savez, les doigts, je crois qu'ils viennent de l'intérieur également. Vous savez, j'ai une grande admiration pour Dupré et pour sa technique en particulier. Et Dupré, peut-être un des plus grands organistes de tous les temps, avec Jeanne de Messieurs, eh bien, Dupré disait lui-même que la virtuosité était avant tout un phénomène intérieur et cérébral. Donc je trouve ça d'une grande sagesse et d'une grande humilité. Un virtuose immense, on l'appelait le Liszt de l'orgue quand même, Dupré, hein, rien que ça. Eh bien, il disait lui-même que c'était avant tout un phénomène intérieur.
Est-ce que l'orgue est un instrument soliste ? Le soliste représente aussi quelque chose qui est important au niveau de la toccata, puisque c'est effectivement,
alors,
c'est se montrer.
Excellente question. Oui, l'orgue est un instrument soliste si on veut, mais soliste ne veut absolument pas dire solitaire. C'est-à-dire que l'orgue est fait pour jouer ensemble. Il ne faut surtout pas partir dans cette idée que l'orgue va, comment dirais-je, s'égarer sur son île, sur une île déserte. L'orgue est fait pour jouer avec le cœur.
La toccata, donc, c'est quelque chose qui peut montrer l'explosion de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur.
De l'intérieur.
La voir de manière différente.
Mais vous savez, c'est comme le printemps. C'est l'explosion de la vie, en fin de compte. Et oui, au printemps, qu'est-ce qui se passe? Il y a une explosion extérieure. On voit, comment dirais-je, la verdure, etc., etc. Mais en réalité, avant tout, une explosion intérieure, c'est-à-dire la germination et l'ensemble de la vie qui s'éveille.
Donc justement, ça peut avoir une relation avec quelque chose d'improvisé parfois ou pas?
Ah, complètement. Alors, vous avez tout à fait raison. Merci de me tendre la perche. Il est possible que ces toccatas-là soient des retranscriptions d'improvisation améliorées. Et d'ailleurs, Dupré, dans son traité d'improvisation, en parle de ça. Il dit, oui, qu'une toccata peut commencer comme ça. Par contre, il ajoute aussi le danger qu'il y a. C'est d'avoir quelque chose de répétitif, et j'allais dire de mécanique et d'automatique, qu'il faut éviter. Il dit que c'est le plus grand danger de la toccata. Et justement, je crois que Vidor l'évite très bien, dans la mesure où il change de tonalité, il change la position des voix, le thème passe à la soprane après être allé à la basse, etc. Donc il est probable qu'il y avait une improvisation au départ, mais qu'il l'a retravaillée.
La toccata veut démontrer de la brillance, qu'on existe,
oui.
Qu'il y a une existence.
Il y a trois choses à pas rendre croissant. La brillance digitale, la brillance virtuose, la brillance de l'instrument aussi, parce qu'on va mettre en avant, on touche un instrument, donc ça n'est pas un pur esprit l'instrument, c'est avant tout du bois, du métal, des tuyaux, de la mécanique. Donc la brillance de l'instrument, mais au troisième, ce qu'on veut démontrer, c'est la brillance de la joie intérieure qu'on partage. La joie partagée, car la seule vraie joie est partagée.
Vous voulez rajouter quelque chose sur la toccata?
La toccata est un genre qui ne peut pas vieillir. J'ai eu beaucoup de chance parce que la nuit de mon baptême, mon maître a créé une toccata qu'il a écrite et dont j'ai le manuscrit et que nous sommes en train de publier.
On vous a dédié une toccata?
Non, elle n'était pas dédiée à moi. Elle a été jouée la nuit de Pâques. J'ai été baptisé dans la nuit de Pâques 62. Comme ça, vous connaissez mon âge. Et il se trouve qu'il a créé, il y avait un article dans le journal que mes parents ont gardé, il a créé une toccata et j'ai la joie immense. Les titulaires de la collégiale de Colmar m'ont donné le manuscrit et grâce à l'Union Sainte-Cécile, on va le publier.
Merci Yves pour cette émission sur la toccata.
Merci Blandine, à bientôt.
À bientôt.
C'était De pierre et de notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.